Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous écoutez, c'est creepy.
Et bonsoir Twitch et bonsoir le podcast. Je suis tout seul en fait.
Non, t'es pas tout seul. Qu'est-ce que tu fous dans mon studio? T'es qui?
Je suis Yop et t'écoutes actuellement le Rendez-vous de l'étrange épisode 17.
Yop, qu'est-ce que tu fous là? C'est censé être la rentrée de C'est creepy, non?
Maintenant que je suis là, autant qu'on fasse un épisode en featuring.
Et t'as une histoire?
Tu croyais que j'allais enregistrer pour rigoler? Et t'en as une, toi?
Oui, j'en ai une. Écoute, moi je te propose qu'on parte sur deux histoires, deux pour le prix d'une.
C'est parti. Petite musique creepy, let's go. Vanille, moi pour mon sujet, je vais te présenter une histoire qui parle d'un groupe de randonneurs dont les membres sont morts en montagne et dont les circonstances de la mort sont mystérieuses, voire même très louches.
Comme par hasard.
Comme par hasard, là tu vas me dire...
La montagne.
Oui, là tu vas me dire c'est l'histoire du col de Dyatlov. Tu connais très bien, hein, t'en as fait deux épisodes sur le sujet il me semble.
Ouais, oui.
Sauf que non.
Sur Patreon.
Exactement, donc abonnez-vous. Là, on est sur une histoire beaucoup plus contemporaine. Elle s'est déroulée en 1993. Dyatlov, c'était en 1959.
Okay.
Et ça s'est passé en Sibérie orientale, en Russie donc. Elle est moins connue que, que l'histoire du col de Dyatlov. Et pourtant, je la trouve assez horrible. Elle est assez balèze et il y a beaucoup de mystères.
Ok.
Donc, on était prête?
Je suis prête. Rends-nous fiers.
L'histoire se passe début août de l'année 1993. On est un an et demi après la dislocation de l'URSS, pour information. Un groupe de jeunes randonneurs originaires de Petropavl, une ville du Kazakhstan, a prévu de faire un trek dans la chaîne montagneuse de Kamardavan sur les rives sud du lac Baïkal. L'organisatrice de ce trek n'est autre que leur professeur, Lyudmila Korovina. C'est une experte en survie et instructrice de randonnée âgée de 41 ans. Elle était très respectée parmi ses collègues et ses étudiants. Elle était considérée comme une maîtresse dans l'art de la survie. Bien qu'elle soit réputée pour être assez dure avec ses élèves et de les pousser dans leurs limites, elle était largement reconnue comme une excellente enseignante qui enseignait des compétences essentielles en randonnée. Elle avait donc choisi 6 de ses meilleurs élèves pour l'accompagner. Elle était familière de la région, qui était d'ailleurs un lieu touristique populaire, et c'était vraiment considéré comme une destination de randonnée assez sûre. Lyudmila, elle s'était soigneusement préparée pour le voyage. Il me semble qu'elle a dû se préparer pendant 6 mois, tu vois, avec ses élèves.
Ok.
Et maintenant, je vais te parler du groupe de randonneurs. Donc, il va y avoir du name-dropping de fou, avec de l'accent russe. Le premier des 6, c'est le plus proche, en fait, de Lyudmila. Il s'appelle Alexander Krissin. Tout le monde l'appelle Sacha. Il était âgé de 23 ans. Lyudmila, elle connaissait Sacha depuis presque toute sa vie, et elle le considérait presque comme un fils. Les 5 autres étudiants étaient Tatiana Filipenko, âgé de 24 ans, Denis Shvaksvin, âgé de 19 ans, Valentina Utoshenko, qui était surnommée Valia, âgée de 17 ans, Victoria Zalezova, âgée de 16 ans, et Timur Bapanov, âgé de 15 ans.
15 ans? Mais ça va ou quoi ?
Je me rappelle plus pour Dyatlov, mais Dyatlov, ils étaient bien plus vieux, on est d'accord.
Ah non, mais je savais même pas qu'on pouvait partir en trek là à 15 ans. Bon, après, les Russes, je sais qu'ils font d'autres trucs dans la vie, mais...
Et c'était censé être une randonnée pas trop technique, quoi.
Ah.
Mais ça devait quand même durer plusieurs jours.
Ok.
Donc, il y avait trois randonneurs et trois randonneuses, hein, donc avec Lyudmila. Et donc, c'était beaucoup d'adolescents. Hein. Mais a priori, ce que moi j'ai lu, hein, c'est qu'ils étaient tous habitués à marcher en montagne. Et ils étaient assez bien entraînés avec Lyudmila. C'était un trek de catégorie 4. Donc, pas trop difficile, mais quand même un petit peu. Et comme je te l'ai dit, ouais, ça faisait 6 mois qu'ils le préparaient.
Ok.
En plus de ça, c'était l'été. Et donc, la zone n'était pas réputée pour être... dangereuse, il y avait des touristes et selon les prévisions météo, le temps allait être ensoleillé et clair. Donc en gros, tout va bien quoi.
Ouais.
L'itinéraire et le planning étaient précis. Ils avaient environ 80 km à faire et en chemin, ils devaient croiser un autre groupe de randonneurs mené par Natalia, donc c'est la fille de Lyudmila. Le rendez-vous était prévu le 5 août, soit 3 jours après le départ. Avant même de commencer, l'ambiance était bonne. Et les 6 élèves étaient assez enthousiastes à l'idée de prouver leurs compétences en randonnée lors de ce voyage, surtout après toute cette préparation. Donc ça y est, nous sommes le 2 août. L'aventure peut enfin commencer. Le groupe part avec pas mal de matériel, en raison du fait qu'ils seront quand même plusieurs jours en pleine nature. Ils prennent avec eux leur tente, sac de couchage, des vivres, et tout ce qu'il faut pour camper en fait.
Mmh.
Ils ne partent... En fait, ils n'ont aucun moyen de communication. Bah, à l'époque, ce n'était pas aussi répandu.
Ok.
Les 2 premières journées se passent bien. Ils se sont même déroulés plus facilement que prévu. Donc, il faisait beau, quoi. Le groupe avance bien. Ils arrivent à gravir le sommet du mont Retransliator. Ça fait, on dirait, un mont Transformers ou je ne sais pas quoi. Et ce n'est qu'à partir du 4 août, lorsqu'ils entament la descente, que les choses se corsent. Premier gros problème, les prévisions météo n'étaient pas fiables.
Ah.
En effet, il commence à pleuvoir non-stop à cause d'un cyclone actif plus au sud, en Mongolie. Le rythme est donc fortement ralenti. Donc déjà, parce qu'il y a des glissements de terrain, et donc qu'il faut faire attention. Mais aussi que toutes leurs affaires sont mouillées, et donc ça ajoute un poids important qu'ils doivent maintenant soulever.
Okay.
Le groupe commence aussi à pas mal fatiguer. Ils font 4 pas par jour, mais ils ont faim en permanence. Ils ont froid aussi, comme ils sont constamment trempés. Et puis, ils n'avaient pas de vêtements de pluie, hein, puisqu'il était censé faire beau.
Non, mais ils avaient 6 mois pour se préparer. Ils n'ont même pas préparé une tenue de rechange au cas où.
Un petit cas, ouais, quand même, au cas où.
Ah, ok.
Mais non, en fait, non. Ils étaient mouillés.
Ok.
Lyudmila décide alors de s'arrêter rapidement pour camper dans une zone dégagée, malgré la présence d'arbres à 4 km en contrebas qui pourraient les protéger. Mais Lyudmila, à ce moment-là, elle explique son choix par le fait que le groupe serait trop fatigué pour effectuer la descente. Ils dressent donc leur campement et malgré les mauvaises conditions, ils n'arrivent pas à allumer un feu. Car oui, il s'est mis à neiger entre-temps.
Ah ouais.
Il y a de la pluie et puis il s'est mis à neiger. Mais malgré les mauvaises conditions, le groupe semble toujours de bonne humeur. Ils sont pressés de retrouver le groupe de Natalia le lendemain. Le truc, c'est qu'ils ne sont jamais arrivés au point de rendez-vous. Natalia et son groupe, eux, sont bien arrivés. Mais au bout d'un moment, comme le groupe de sa mère n'arrivait pas, Natalia elle a décidé de continuer son chemin. Pour elle, le mauvais temps avait dû les ralentir. Ça ne l'inquiétait pas plus que ça, parce qu'elle savait que sa mère elle était vachement expérimentée, donc elle ne s'est pas posée plus de questions. Mais elle ne pouvait pas se douter de ce qu'avait vécu le groupe de sa mère. Nous sommes donc le 5 août 1993. Lyudmila et son groupe se réveillent et ils découvrent qu'il a beaucoup neigé durant la nuit. À cause du froid, ils n'ont pas bien réussi à dormir et ils sont tous fatigués. Ils prennent quand même leur petit-déj, ils rangent leur équipement et ils repartent sur le coup de 11h pour continuer leur descente. Tout est apparemment normal à ce moment-là, mais tout à coup, un cri rompt le silence. Et ce cri, il provient de l'arrière du groupe. Donc, tout le monde se retourne. Il voit Sacha, Donc Sacha, c'est le randonneur le plus âgé, 23 ans, hein, qui est en train de hurler. Du sang coule long de ses yeux, de ses oreilles. Il bave abondamment, tu vois, ça fait un peu effet mousse. Puis, après quelques pas, il tombe au sol, se met à convulser avant de s'immobiliser. Donc, Lyudmila, tu vois, je t'avais dit, elle considérait Sacha comme son fils. Donc, elle court vers lui, elle le prend dans ses bras, elle ordonne aux autres de continuer la descente et de chercher des secours. Le groupe, il se remet donc en marche, assez terrorisé par ce qui vient de se passer, et une nouvelle fois, ils entendent un cri derrière eux. Donc, ils se retournent, et cette fois, ils voient Lyudmila, qui présente exactement les mêmes symptômes. Elle crie, elle saigne des yeux, du nez, elle bave, elle se met à convulser, elle a des contractions incontrôlées et elle s'écroule par terre. Bam, arrête morte. Ils accourent, du coup Tatiana se décide de se rapprocher pour leur porter secours. Et là, elle tombe par terre en se tenant la gorge, comme si elle ne pouvait pas respirer. Du coup, elle tombe à terre, mais elle continue à ramper. Elle se dirige vers un rocher à proximité pour se frapper la tête contre lui. À plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et elle meurt elle aussi sur le coup. Donc Valentina reprend ses esprits et elle dit aux autres qu'il faut partir tout de suite. Mais ils l'écoutent pas parce qu'ils sont en état de choc. Il y a Denise qui va se cacher derrière un rocher. Mais c'est pas fini. Là, c'est au tour de Victoria et Timur de présenter les mêmes symptômes. Ils commencent à s'agiter, à se tenir la gorge. Ils s'arrachent leurs vêtements, ils vomissent du sang et ils tomberaient de mort. En juste quelques minutes, il ne restait plus que deux randonneurs encore en vie, Denis et Valentina, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Ils décident alors de continuer la descente, tous les deux en silence, mais au bout de quelques minutes seulement, c'est au tour de Denis de tomber par terre, avec les convulsions et tout ce qui va avec. Valentina est désormais la seule encore en vie, tous les autres sont morts.
S'il en reste un, c'est lui qui l'a fait.
Bah tu vois, je l'ai pas dans mes théories ça, mais on pourra en parler, hein. Mais en tout cas, elle a aucune idée de ce qui a pu provoquer tout ça. Elle sait juste qu'elle doit quitter l'endroit le plus vite possible si elle veut pas finir comme eux. Elle prend alors quelques vêtements, un sac de couchage, une couverture de survie, et elle se remet à continuer la descente. Elle atteint la forêt en contrebas, et vu son état de fatigue, aussi bien physique que nerveux, elle décide de se coucher et se réveille donc le lendemain, le 6 août. Il fait jour et elle sait pas trop quoi faire. Elle décide finalement de retourner sur les lieux. Elle remonte la pente. Elle retrouve les corps de ses camarades par terre. Elle leur ferme les yeux par respect. Elle fouille ses affaires pour récupérer tout ce qui pourrait être utile. Elle récupère donc de la nourriture et une carte. Puis elle décide de repartir. Malgré sa carte, elle sait pas trop où aller si elle veut trouver la civilisation parce qu'elle est vraiment au milieu de nulle part en fait. Mais déjà, je sais pas ce que t'en penses. Mais à sa place, moi je serais pas retourné les voir. Hein. Quand tu vois qu'ils sont tous morts, limite à la suite en se rapprochant, moi j'y serais pas retourné. Hein.
Non, c'est creepy, moi j'y vais même pas, je veux pas revoir, je veux pas voir des morts. Yo.
Ouais, j'avoue. Mais en tout cas, elle est retournée, elle a pris quelques affaires. Donc elle a recommencé sa marche. Elle commence alors à longer une rivière pendant une journée. Le lendemain, elle tombe sur des lignes électriques. Elle se dit qu'elle doit mener à des habitations. Le problème, c'est qu'elle tombe que sur des maisons abandonnées. Elle rebrousse alors son chemin pour continuer à longer la rivière. Et la situation dure comme ça pendant plusieurs jours. Son état est de plus en plus critique. Elle est en état de choc vis-à-vis de ce qu'elle a vécu. Son état mental aussi commence à vaciller. Elle a vraiment très peu de réserves de nourriture. Elle est à bout de force, en fait. Là, elle commence à penser que c'est aussi la fin pour elle, mais elle décide de rien lâcher et de s'accrocher à la vie. Et là, on avance au 9 août, donc ça fait 4 jours que Valentina elle erre seule le long de la rivière. Et il y a justement deux touristes ukrainiens qui passent par là, tu vois, en canoë. Ils sont en vacances, ils profitent de la nature, du calme, ils sont bien, tu vois, posés. Quand tout à coup, ils voient quelqu'un sur la berge, une jeune fille debout, immobile, qui a l'air de les regarder, mais sans les voir, quoi.
Ouais.
Là, les Ukrainiens, ils trouvent ça un petit peu bizarre, parce que on est quand même au milieu de nulle part. Donc, ils lui font signe en passant, mais elle répond pas. Donc, ils continuent leur balade, mais tu vois, au bout de quelques minutes, ils discutent entre eux, ils commencent à, à douter de ce qu'il doit faire, parce que c'est quand même assez chelou. Et finalement, il décide de revenir voir la fille, et donc il lui demande si ça va, et là, elle devient hystérique. Et on peut la comprendre, de toute façon, avec tout ce qu'elle a vécu. Hein. Donc ils finissent par lui donner à boire, un petit peu à manger, et il l'emmène à un poste de police. Le problème, c'est que Valentina, elle est incapable de raconter en détail tout ce qui s'est passé, elle est trop sous le choc. Donc ils essayent voilà, de prendre le peu d'informations qu'ils peuvent, donc ils prennent une déposition, mais les secours ils sont pas déclenchés tout de suite, bah, parce qu'ils ont pas assez d'infos. Et en plus de ça, le temps est très mauvais dans les montagnes de Camardaban, et les hélicoptères ne peuvent pas décoller. Ce n'est que le 24 août que les secours arrivent sur les lieux, après 2 jours à survoler la zone, et ils retrouvent les corps des 6 randonneurs. Les sauveteurs remarquent qu'ils n'ont que très peu de vêtements sur eux, et que 3 d'entre eux n'ont plus de chaussettes ni de chaussures.
Comme dans The Hat Love.
Ouais, ça te parle, ça.
Ouais.
Mais c'est cool, vu que tu connais bien The Hat Love, je pense qu'il y aura matière à discuter.
Mm.
Le rapport d'autopsie a révélé que tous les randonneurs, à l'exception de Lyudmila, qui, elle, a eu une crise cardiaque, eh bien, tous sont morts d'hypothermie. Il a aussi été constaté qu'ils avaient des signes d'ecchymose au niveau des poumons. La conclusion du rapport révèle que la cause de la mort serait liée à une carence en protéines résultant de la famine et de l'hypothermie extrême. La mort, selon les autorités, serait donc accidentelle. Et c'est vrai que, même s'ils mangeaient 4 plats par jour, ils avaient emmené que très peu de sources de protéines, ils avaient surtout des glucides, et ils mangeaient pas suffisamment compte tenu de leur activité et du froid. Je regardais la liste de ce qu'ils avaient apporté, genre il y avait des bonbons, du chocolat, des céréales, tu vois, mais il n'y avait pas de...
Ouais, mais attends, t'as dit que ça a duré combien de temps, ce voyage ?
Alors, c'est passé le 5 août, là, ça faisait 3 jours qu'ils étaient dans le froid, sous la neige, sous la pluie.
Mais tu fais pas une carence en 3 jours ?
C'était assez sport, tu vois, ils étaient habillés super légers sous la neige. Donc l'hypothermie, elle peut arriver très vite, hein.
Oui, l'hypothermie, d'accord, mais la carence, enfin, comment tu fais une carence en 3 jours, enfin, encore 2 semaines, je peux commencer à me dire, bon, peut-être, mais 3 jours.
En fait, les deux vont avec, parce que ton corps, il a besoin de beaucoup plus d'énergie, tu sais, quand il doit combattre le froid. Et c'est pour ça qu'ils mangeaient 4 plats par jour, mais a priori, ils mangeaient du chocolat et des bonbons, et bon, ils avaient quand même d'autres trucs, hein, je te rassure, mais ils n'avaient pas des masses de protéines, en vrai. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre dans cette histoire. D'abord, les saignements des yeux et des oreilles, c'est que la bave, ça n'a pas été pris en compte dans les résultats du rapport. Ensuite, et là c'est assez bizarre, les dépouilles des randonneurs, elles ont été enterrées dans des cercueils en zinc. Mmh. Ce qui sert en général à éviter tout risque de contamination en cas de maladie contagieuse. Et généralement, quand tu meurs d'hypothermie, tu vois, c'est pas vraiment contagieux. Hein.
Ouais. Mais peut-être qu'à cause de Dyatlov, ils se sont dit, bon, cette fois-ci, on va prendre de risques.
Ouais.
Parce qu'on avait déjà la théorie de la radioactivité, donc bon, cette fois-ci...
Dans le doute, ça coûte... ça coûte plus cher, mais voilà, on sait jamais, quoi.
Mais moi, alors, cette affaire, je la connais un peu déjà, je l'avais déjà entendue, mais il me semblait que, justement, à un moment, ils n'avaient plus assez de bouffe. Et j'avais vu qu'ils avaient consommé... des plantes qu'ils avaient trouvées à cet endroit-là.
Ouais, il y a une histoire de plantes et ce sera aussi dans les théories.
Ah, excuse-moi. Ouais.
Il y a aussi le fait que Valentina avait l'interdiction de parler publiquement de la tragédie.
Ah.
C'est que 25 ans plus tard, en 2018, qu'elle a accordé une interview à un journal pour raconter son histoire.
Ok.
Et donc, je t'en parlerai aussi de cette interview.
Oui.
Et du coup, à ce moment-là, il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi il serait mort parce qu'il randonnait dans un endroit où il y avait des essais d'une arme chimique.
Encore ?
Et c'est vrai que, bah, c'est la Russie, hein.
Mais ils font que ça ou quoi ?
Et c'est vrai que vu la rapidité et la manière dont les 6 randonneurs sont tous décédés les uns après les autres, bah, on peut se poser des questions. Surtout qu'au vu de certains symptômes, tu vois, la folie soudaine, les saignements, bah, ça peut quand même ressembler aux effets d'une arme chimique. Et là, je pense qu'on arrive au moment de l'histoire où je pense qu'on peut aborder toutes les théories autour de cette affaire. On va quand même revenir un petit peu sur la théorie officielle, parce que voilà, c'est la théorie soutenue par le gouvernement, celle de l'accident. Parce que oui, on peut quand même mourir d'hypothermie en pleine montagne, même en plein été, tu vois, parce qu'en Russie, même en été, bah, il peut faire froid. Surtout que les randonneurs cumulaient des facteurs qui allaient dans ce sens. Bon, déjà, ils n'étaient pas préparés pour le temps qu'ils ont eu. Ils étaient donc trop peu couverts pour la pluie, le vent, la neige. Ils ont dû supporter des températures assez basses, qui n'étaient pas du tout prévues. Ils mangeaient pas assez compte tenu de leurs efforts. Et le fait que certains randonneurs ont arraché ou enlevé leurs vêtements, bah, ça fait sens. C'est ce qu'on appelle en fait le déshabillement paradoxal. En gros, passé un certain stade de froid, bah, tu commences à ressentir des sensations de chaleur, voire même de brûlure, et bah, tu veux retirer tes vêtements en fait.
Mais c'est dingue, ça leur est arrivé tous au même moment, genre.
Bah c'est ça.
Bah c'est un peu comme Dyatlov, hein. Ouais, c'est arrivé au même moment.
Ouais, ça ressemble beaucoup à Dyatlov.
Non mais c'est possible tout ça et tout, mais moi ça me semble bizarre, ça... j'ai plutôt l'impression, c'est un peu, les symptômes ils arrivent tous au même moment et j'ai l'impression que c'est un peu comme quand, je sais pas, on a tous mangé ensemble au même moment, et bien après la digestion elle se fait au même rythme, tu vois, pour tout le monde, et du coup... Là, c'est bizarre, c'est les conditions extérieures qui ont fait qu'au même moment, ils arrivent ouais. à... Après, c'est possible, hein. Mais c'est juste que... Bon, il y avait des âges différents, il y avait 15 ans, 23 ans, 41... T'imaginerais que peut-être il y en a qui sont un petit peu plus robustes que d'autres. Surtout que Ludmilla, elle était déjà assez entraînée.
Mais oui, effectivement, il y a des choses cheloues. Mais quitte à continuer vite fait là, dans la théorie de l'accident... Ils auraient aussi pu souffrir d'œdème pulmonaire, dont les symptômes sont notamment l'agitation, l'anxiété et une sensation d'étouffement. Donc tu vois, ça ressemble un peu à ce qu'ils ont vécu. Mmh. En général, les œdèmes pulmonaires, ça consiste en fait à ce qui est une accumulation de liquide dans les poumons. Et ça se produit généralement chez les personnes en bonne santé à des altitudes supérieures à 2500 mètres. Et c'est quand même possible à plus basse altitude, entre 1500 et 2500, si y a des sujets qui sont un petit peu plus vulnérables, genre je sais pas, peut-être des ados. Et lorsque ça s'est passé, il était environ à 2300 mètres d'altitude, donc tu vois, ça peut à peu près matcher. Pour les saignements, ils peuvent aussi arriver en cas de changement brusque et rapide de pression atmosphérique. Et donc, comme quand on descend vite d'une montagne ou quand on fait de la plongée. Et dans les cas les plus sévères, ça peut occasionner une perforation du tympan avec des saignements. Donc ça pourrait expliquer, peut-être, les écoulements de sang qui ont été constatés chez les randonneurs. Le truc, comme tu me l'as fait remarquer, c'est que même s'ils ont souffert d'hypothermie, d'œdème pulmonaire ou de perforation des tympans, ou même les trois en même temps, j'en sais rien, tu vois, ce que je peux pas expliquer, c'est que bah, voilà, c'est arrivé au même moment pour tout le monde. Ils avaient tous des âges, des carrures différentes. Tu vois, on aurait pu penser par exemple que Sacha, l'homme le plus costaud du groupe, il aurait pu tenir plus longtemps. Il avait 23 ans, il était dans la force de l'âge, tu vois. L'hypothermie, normalement, il aurait pu tenir plus longtemps que les autres. Mm. Mais c'est lui qui est mort en premier.
Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. C'est que si c'est une hypothermie, je pense qu'il y a plus de facteurs corporels, psychologiques, tout ça.
Ça arrive pas en deux minutes.
Ouais, ça arrive pas au même moment et à tous, parce que là, au final, il en reste plus qu'une. C'est bizarre.
C'est ça.
Aussi.
Donc, ouais, très chelou. Hein.
Mais attends, t'as dit... Attends, excuse-moi. Hein. Celle qui a survécu, c'est qui déjà ?
Celle qui a survécu, c'est Valentina. Valentina, 17 ans.
Ah ouais ? Ah oui, d'accord.
Donc, il reste quand même un bon gros degré de mystère avec cette histoire. Et je pense qu'on se doit, en tant que podcasteur professionnel, on va pas s'arrêter sur cette version officielle et on va envisager quand même d'autres théories.
Oui.
Selon certains experts, les symptômes rapportés par Valentina... indique une mort due à des armes chimiques, plus précisément des agents neurotoxiques, car les convulsions et l'excès de bave sont des symptômes courants d'une toxine nerveuse puissante. Les résultats de l'autopsie sont en accord avec cette théorie, car les contusions pulmonaires sont un signe assez courant en fait de mort par gaz neurotoxique, et ça peut aussi causer des difficultés respiratoires.
Et donc du coup, ça c'est la version du gouvernement ?
Non,
ah.
C'est la version la plus répandue. C'est la version qui expliquerait en fait assez facilement pourquoi ils sont morts tous en même temps, tu vois.
Ok. Non, parce que si on explique ça comme ça, il va falloir dire que c'est pareil pour Dyatlov en fait, tu vois. En fait, si je pensais que si le gouvernement il avouait que c'était un truc radioactif ou chimique.
Non, mais le gouvernement.
Pour ces morts-là, va falloir aussi faire.
Va jamais avouer ça.
Bah oui. Mm. Non, mais c'est pour ça que je me disais, ah bah ça veut dire qu'ils avouent du coup pour Dyatlov par la même occasion, parce que c'est la même chose.
Bah oui. Et pour aller un petit peu plus loin avec ça, donc Ludmilla, tu te rappelles, elle était morte. Elle n'est pas morte de la même chose, elle. Elle a eu un arrêt cardiaque et ça peut aussi fonctionner.
Ça passe.
Des agents neurotoxiques, ça peut aussi enclencher une crise cardiaque.
Allez, oui, ça passe.
Et même, tu vois, si la cause des autres randonneurs, à part Ludmilla, c'est l'hypothermie, bah, ils auraient d'abord pu perdre connaissance à cause des agents chimiques, tu vois, tomber dans le coma... en raison de l'exposition, et entraînant ensuite, dans un second temps, une hypothermie comme cause finale pour leur mort. Bon, sauf celle, par contre, qui s'est tapée contre le rocher, là. Là, elle est morte direct. Mais alors, comment les randonneurs ont été exposés à cette arme chimique ? On pourrait se dire, peut-être, qu'il pourrait y avoir des essais, tu vois, qui auraient été faits auparavant dans la zone. C'est quelque chose d'assez courant, en vrai, hein, tu sais, en mode, on nous cache des choses, mais des essais chimiques, ça se fait dans tous les gouvernements, hein, dans tous les pays. Et donc que les randonneurs, ils auraient pu ingérer des substances toxiques, je sais pas, un aliment spécifique, une fleur effectivement qu'ils auraient ramassée ou quelque chose comme ça, ou de l'eau qu'ils auraient bu, et du coup ils auraient pu être contaminés. C'est également possible que des produits chimiques ils soient tombés pendant la forte pluie, parce qu'ils ont pas mal de pluie. Et si Valentina a survécu, c'est peut-être parce qu'elle a pas été exposée de la même façon, peut-être qu'elle a moins consommé d'eau, ou peut-être qu'il y a un aliment qu'elle a pas mangé. Sachant que certaines substances peuvent mettre seulement quelques minutes à agir, ça expliquerait pourquoi ça s'est passé au même moment, en fait. Donc tu vois, ils venaient de manger, ils ont ingéré quelque chose de toxique, peut-être que Valentina voulait pas manger cette chose-là, tu vois, et elle a survécu. D'ailleurs, en parlant de manger, ça nous emmène à la troisième théorie, celle du champignon vénéneux.
Ouais.
Faut savoir que Lyudmila, c'était une cueilleuse expérimentée qui enseignait son art à ses étudiants. Par contre, il est possible qu'un des randonneurs ait par exemple cueilli par erreur un champignon toxique pour les petits-déj, conduisant à un empoisonnement qui s'est manifesté une fois qu'ils ont commencé à marcher. Et peut-être que pareil, Valentina, elle en aurait pas mangé. Mais le truc, c'est que si les randonneurs ont succombé à cause d'un champignon ou d'un composé chimique, ben on sait pas si des analyses biologiques ont été menées lors des autopsies. Et si c'est le cas, on n'a pas accès aux résultats. Mais tu vois, vu les cercueils en zinc, tu vois, moi j'ai quand même ma petite idée du résultat.
Oui, bah oui.
Pour moi, ils ont sûrement été exposés à quelque chose de contagieux. Et le fait que le gouvernement ne donne pas plus d'infos, et ils veulent pas non plus que Valentina s'exprime sur l'affaire, bah, ça me fait quand même penser sur le fait qu'on était possiblement sur une zone de test d'armes chimiques et que les randonneurs ont été exposés.
Je pense qu'ils ont dû consommer un truc sur le lieu, je sais pas, une fleur ou un champignon, comme tu dis. Parce qu'en fait, quand t'as dit, ils se prenaient à la gorge, ils s'étouffaient, et aussi les poumons, enfin,
ouais,
une réaction, un œdème ou je sais pas quoi, quand on a une réaction allergique ou que tu manges un truc qui est empoisonné, c'est un petit peu les premiers réflexes que t'as. Après, je dis pas que ça peut pas être des symptômes que t'as pour d'autres trucs, tu vois, mais ça se pourrait que ça ait été déclenché quand ils ont avalé ça, tu vois.
Ouais.
Je pense, et ça devait être bien concentré vu que bah c'était dans une zone où il y avait eu des tests, et bah la fleur elle pousse là, elle est, enfin après bon, est-ce qu'une fleur ça survit à ça aussi, c'est bizarre.
Bah ça s'adapte aussi. Il y a aussi une autre théorie, et je crois d'ailleurs que elle a aussi été avancée pour Dyatlov. C'est la théorie de sons, même d'infrasons, qui auraient pu être générés par des vents violents sur la montagne, des sons de basse fréquence qui sont inaudibles mais qui serait néfaste pour la santé, et ça pourrait donner des maux de tête, des nausées, des troubles du sommeil. Cependant, est-ce que tu peux avoir des niveaux assez élevés qui pourraient rendre les gens comme ça, tu vois ? Je suis pas sûr.
Ouais, je sais pas.
J'ai une dernière théorie un petit peu plus farfelue. Je vais te parler d'une légende locale. Selon les sages et les chamans du coin, les montagnes sacrées de Camardaban seraient habitées par des esprits mystiques. Et le problème, c'est que le groupe des randonneurs aurait cueilli trop de plantes sans leur demander leur permission. Cela aurait donc provoqué la colère des esprits, qui aurait tué tout le groupe, sauf une personne qui servirait de messager pour dire de laisser les plantes tranquilles. Donc voilà pour toutes les théories qu'on peut trouver, mais comme on est en 2023, j'ai aussi demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de cette affaire.
Ah !
Et surtout, s'il avait des théories farfelues.
Des théories ?
Ouais, je lui ai demandé des théories farfelues.
Ah, ça va être creepy. C'est la minute ChatGPT. Bip bip boop boop.
Alors, première théorie. Les randonneurs ont été enlevés par des extraterrestres. Peut-être que les randonneurs ont été enlevés par des extraterrestres qui cherchaient à étudier les humains dans leur environnement naturel. Peut-être qu'ils ont été choisis pour une expérience scientifique intergalactique et ont été renvoyés sur Terre après avoir été examinés sous toutes les coutures.
Bah oui, bien sûr.
Deuxième théorie.
Ok.
Les randonneurs ont été attaqués par des animaux mutants. Et si les randonneurs ont été attaqués par des animaux mutants qui ont été créés par une expérience scientifique secrète dans la région de Camardaban, peut-être que ces animaux ont développé des capacités surhumaines et ont attaqué les randonneurs pour les empêcher de révéler leur existence. Troisième théorie par ChatGPT, les randonneurs ont rencontré une porte interdimensionnelle. Et si les randonneurs ont accidentellement rencontré une porte interdimensionnelle cachée dans la montagne de Camardavan, peut-être qu'ils ont été aspirés à travers la porte vers une autre dimension, et ils sont toujours piégés là-bas aujourd'hui.
Mais attends, mais t'as rajouté science-fiction dans le script?
J'ai dit théorie farfelue.
Ah, farfelue, ouais. Ok.
J'en ai une autre de ChatGPT. Les randonneurs ont été victimes d'une malédiction, et ça rejoint un petit peu la théorie d'ailleurs que je te disais juste avant. Peut-être que les randonneurs ont été victimes d'une malédiction lancée par une sorcière locale ou un chaman qui voulait protéger les secrets de la montagne. Peut-être que la malédiction a causé des hallucinations et des comportements étranges qui ont conduit à la mort des randonneurs. Mmh. Et dernière théorie par ChatGPT, les randonneurs ont découvert une base militaire secrète cachée dans la montagne de Camardavan. Peut-être que les soldats ont vu les randonneurs comme une menace pour leur mission et ont décidé de les éliminer pour protéger leurs secrets. Mmh. Voilà, on a fait le tour des théories. Pour terminer, oui, je t'avais dit qu'il y avait une interview qui avait été donnée par Valentina en 2018 pour un journal, donc 25 ans après les faits. Dans l'interview, elle revient sur son enfance. Elle explique qu'elle a grandi à la campagne et que toute jeune, elle travaillait à la ferme pour aider ses parents. Elle était à l'aise dans la nature, elle avait appris à skier dès l'âge de 4 ans. Elle n'avait pas peur des difficultés ni des efforts physiques. Et du coup, c'est sûrement la raison pour laquelle elle a réussi à survivre tous ses jours, seule, dans le froid, à suivre un cours d'eau à 17 ans. Mmh. Et quand le journaliste lui a demandé comment elle avait fait pour retrouver la civilisation et rester en vie pendant tous ces jours, elle a répondu que c'était comme si un ange gardien l'avait guidée pendant tout ce temps. Mmh. Donc voilà, bravo à elle hein, quand même, hein, qui a réussi à survivre après avoir vécu l'horreur. Hein.
Bravo.
Et bien sûr, je finis mon sujet en évoquant la mémoire des autres randonneurs qui sont décédés. La plupart d'entre eux, ils étaient super jeunes. Certains, ils n'étaient pas adultes. Bah, la plupart, hein, même, ils n'étaient pas adultes. Ils n'auraient pas dû mourir si jeunes dans de telles conditions. Donc voilà, c'était l'incident de Camardavan. Et je le trouve pas mal, hein, tu vois. On parle souvent de Diatlov, mais celui-là aussi, ouais. Hein, il est
assez mystérieux. Celui-là, comme par hasard, même région, même symptômes, quelque chose près.
Ouais, il y a juste quelques années d'écart, quoi, 59-93. Et ça veut peut-être dire qu'en 2023, on va en avoir un nouveau, tu vois. C'est peut-être des cycles.
Bah écoute, j'ai l'impression qu'on raconte la même histoire que Diatlov, mais avec
plus tard. Et peut-être
des
randonneurs plus jeunes.
Différents.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et elle est un peu plus gore, non?
Bah, je sais pas.
Il me semble qu'ils ont été retrouvés moitié à poil, Diatlov, mais...
Diatlov, il y avait plein de trucs dégueulasses quand même. Hein. La langue arrachée.
Ah oui, mais c'est vrai ça.
La peau sur les arbres. Les yeux qui sont plus dans leurs orbites. Tu vois.
Ah, en fait, la mienne est soft finalement à côté.
Oui. Ouais.
Perso, moi, je pense qu'on est sur. Je pense qu'ils ont été exposés à quelque chose. Soit quelque chose de vénéneux ou chimique, tu vois. Qu'ils ont mangé.
Ouais.
Parce que ça s'est quand même passé après le repas.
Ah oui, bah ah non, mais alors là, non, mais si tu le dis comme ça, non, si tu le dis comme ça, c'est ça. Allez, c'est après le petit déj, je te l'ai dit tout de suite, ils se tiennent la gorge, nanana, ils s'en partent de les oreilles, tout explose. Non, c'est le repas.
En fait, après, ce qui est bizarre, c'est que quand tu manges quelque chose de vénéneux, t'as pas forcément du sang qui coule de tes oreilles direct, quoi.
Non, mais ça.
Mais c'était
ça,
peut-être
ça,
un truc
ça,
un peu chimique, tu vois.
Ouais.
C'est pas forcément, tu vois, la cause de leur mort, mais ils sont peut-être tombés dans un coma et après. T'as l'hypothermie qui arrive, d'où le rapport du légiste qui dit bah voilà ils sont morts d'hypothermie. Après j'ai pas non plus confiance en ce que dit.
On a les photos ou pas?
J'ai des photos du groupe, mais j'ai pas des photos du groupe mort.
Ok, bon.
Ce qui est bizarre c'est que c'est des photos noires et blanches, c'est genre c'est les années 50 alors que qu'en vrai c'était dans les années 90. C'était pas si vieux, il y avait quand même des appareils photo couleur.
Russie.
Ah oui, en Russie.
Il n'y avait pas la couleur en Russie.
C'est vrai, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de moyens de communication. Parce que même nous, tu vois, dans les années 90, ben, on avait des téléphones satellites.
Ils sont jeunes.
Ils sont super jeunes.
Ah ouais, mais ils ont dû bouffer un truc, bien sûr.
Donc voilà, mais je crois que c'est tout pour l'incident de Camardavan.
Bah merci beaucoup pour cette histoire bien creepy.
Et bien de rien.
Alors moi, je vais vous raconter une histoire de meurtre très mystérieuse qui s'appelle l'affaire des masques de plomb. Et elle se passe au Brésil. Donc déjà, je suis contente parce que j'ai jamais parlé d'affaire au Brésil. Et aussi parce que, au final, vu que t'es là, c'est une affaire qui va coller spécialement à ce que t'aimes et à ton podcast, Le Rendez-vous de l'étrange. Et parce qu'il y a tout ce qu'il faut niveau intrigue, mystère, on va cocher toutes les cases et j'espère qu'elle va vous rendre dingue, vous aussi. Tu la connais, Yop ?
Eh bien, écoute, il me semble l'avoir entendue, mais il y a genre des années.
Ouais, 30 ans, tu venais de naître.
Ouais, au moins, minimum.
Ça se passe au Brésil en août 1966, plus précisément le 20 août. Un petit garçon, ou un jeune homme de 18 ans, les versions changent, qui s'appelle Jorge Alves, fait voler dans le ciel son cerf-volant sur une colline du nom de Morro de Vintém. Divintém, qui se trouve dans l'état de Rio de Janeiro.
Tu pouvais pas choisir une affaire plus simple.
Non. En baissant les yeux quelques instants de son cerf-volant, il aperçoit dans l'herbe, un peu plus loin, deux masses au sol, deux hommes allongés dans l'herbe qui font sûrement une sieste. Ils s'approchent, et en fait non, ils ne font pas la sieste. Enfin si, sauf que cette sieste, elle est du type éternel. Vous l'avez compris, ils sont morts. Merci. Jorge, je sais pas comment ça... Attends.
Et ça s'écrit comment en fait ?
J-O-R-G-E.
Ah, c'est pas brésilien ça.
Jorge, on va dire Jorge.
Jorge, ok.
Jorge. Jorge redescend la colline et va vite se rendre au poste de police, leur faire part de sa découverte. Bon, la police en prend note, mais vu que les corps se trouvent sur la colline, qui est plutôt difficile d'accès, les policiers vont reporter leur trek au lendemain, le temps de regrouper toute une équipe de pompiers qui pourra monter là-haut avec tous les outils qu'il faut. Le lendemain donc, un petit groupe de pompiers s'y rend et, arrivé sur place, il remarque direct que la scène est assez étrange. Il s'attendait à tout sauf à ça. La première chose qu'il remarque, c'est la présence d'espèces de lunettes qui recouvrent les yeux des victimes. Tous les deux ont les yeux recouverts par de drôles de lunettes, de la forme de lunettes 3D, vous savez, du ciné à l'époque, là, en papier. Sauf que là, il n'y a pas de trou pour voir à travers. Il les inspecte de plus près et il se trouve que ce sont des masques lunettes qui ont été découpés dans des feuilles de plomb et ensuite posés sur leurs yeux. Ils sont également vêtus d'une drôle de manière, ils portent des costumes-cravates identiques et par-dessus ceux-ci, des imperméables jaunes.
Donc en fait, ils sont super stylés, ils sont bien habillés, mais ils ont des masques, quoi, chelou.
Voilà, ils sont sapés et ils ont des masques, comme s'ils allaient faire une cure de soleil.
Ok.
Voilà. Sur la scène, il n'y avait aucune trace de lutte. Les cadavres n'avaient aucune blessure et leurs bijoux et portefeuilles étaient intacts. Il semble qu'on ne les avait donc ni agressés ni volés. Près des corps, on retrouve aussi un sac. À l'intérieur de celui-ci, on trouve une bouteille d'eau vide, un mouchoir, leur papier d'identité. Bon, jusque-là, ça va. Oui. Mais il y avait aussi des serviettes mouillées et un carnet dans lequel se trouvaient des instructions très mystérieuses. Je cite « 16h30, soyez à l'endroit spécifique. 18h30, ingérez les capsules. Après effet, se protéger avec les masques de métal et attendre le signal. »
Ok.
Cryptic. Selon leur papier d'identité, les deux corps appartiennent à Manuel Pereira de Cruz et Miguel José Vania.
Bravo.
Merci. Ce sont des techniciens radio qui travaillent dans une usine d'électricité à Campos, à plus de 260 km de la colline où ils ont été retrouvés. Les corps sont redescendus à la ville pour qu'on les autopsie. Faut noter qu'ils ont été retrouvés dans un état de décomposition avancée. Donc, même si le médecin légiste dit qu'il n'y avait pas de signe de lutte ou de blessure, c'est pas certain à 100% parce que les corps avaient déjà bien entamé la décomposition. Mmh. Donc, ils n'ont pas pu faire d'analyse toxicologique à proprement parler et démontrer si, par exemple, ils ont subi un empoisonnement via les capsules, peut-être.
Ok.
Le médecin légiste ne parvient donc pas à identifier la cause de la mort exacte. Et j'ai lu aussi que, apparemment, c'était pas une affaire vue comme super importante à l'époque. La police, elle était pas à fond dessus. Et le médecin légiste non plus. Certaines sources disent même que ça lui a pris du temps à examiner les corps. Genre, ils en avaient. Enfin, c'était pas une affaire de la plus haute importance. Et donc, les corps ont été laissés sur le côté à décomposer un petit peu trop longtemps avant qu'ils s'y intéressent. Donc, en gros, il y a un peu de négligence par-ci par-là et au final, il reste pas grand-chose à apprendre des corps pour aider à la compréhension de cette affaire.
C'est dommage.
C'est ballot. T'allais dire un truc ?
Non, mais en fait, il y a un truc qui me trigger depuis le début, c'est il y a une serviette mouillée dedans. Et je me dis, mais ça fait des mois qu'elle est mouillée, du coup.
Écoute, s'il n'y avait pas de moisissure, moi, j'en tire que c'était peut-être la serviette qu'ils ont utilisée pour essuyer leur sueur de la montée. Tu vois, comme à la salle, là, quand ils disent d'apporter une serviette qui ne sert à rien, là.
Ah oui,
ça doit sûrement être ça. C'est leur serviette d'effort, peut-être.
Ah, ok.
Voilà. Après, ils disent pas à quel point elle est mouillée, tu vois, donc j'avoue. La police ne pense pas que la mort soit d'origine criminelle, donc ils sont pas affolés plus que ça. C'est pour ça, en fait.
C'est vrai que ça fait un peu suicide, tu vois, vu comme ça, ouais. Vraiment de loin. Peut-être qu'ils se disent, oui, ils ont fait ça dans leur coin tous les deux, et puis voilà, quoi.
Ouais, on va voir ça par la suite. Mais ils vont quand même mener une petite enquête. Elle va être lancée par l'inspecteur José Venancio Bitancourt, très français,
ouais, j'avoue.
Portugais, afin de savoir ce qui est vraiment arrivé. Ils vont essayer tout d'abord de retracer leur emploi du temps jusqu'au jour fatidique. Il semblerait que les deux techniciens ont quitté leur ville, Campos, le 17 août, en prenant le bus jusque Vinteng. Ils y sont arrivés en début d'après-midi à 14h30. Dans une boutique, ils achètent leur manteau imperméable jaune et ils sont aperçus un peu plus tard dans un bar où ils achètent la fameuse bouteille d'eau qui sera retrouvée dans leur sac. La serveuse se souvient très bien d'eux. Elle dit qu'au moment où ils sont passés au bar, la météo se gâtait et il commençait à pleuvoir. Elle a remarqué que les deux hommes paraissaient très stressés et qu'ils regardaient sans cesse leur montre, surtout Miguel.
C'est marrant qu'ils s'en rappellent autant, tu vois, ça fait quand même des mois. Hein.
Ouais.
Il devait être marquant, c'est du vrai. Coup. Hein.
Après, est-ce que c'est en mode sous le coup de la police qui vient, t'es en mode oh, « Ouais, je m'en souviens, ils avaient l'air trop stressés. » Enfin, t'as envie de dire un truc, tu vois, parce que tu sais que ça va être « viral », comme on dit.
Ah, peut-être.
Ouais. Un témoin affirme avoir ensuite vu les deux hommes faire de l'autostop et monter dans une Jeep vers 17h. Celle-ci les a déposés en bas de la colline, puis elle est repartie. Même ça me semble ouf que genre le témoin, il a réussi à les suivre du moment où ils sont montés dans la voiture jusqu'à ce qu'elles soient déposées devant la colline.
Ces deux hommes sont bizarres. On va les suivre. Comme ça, si dans plusieurs mois, les policiers viennent me poser des questions, je serai prêt.
Je te jure. Et c'est là que Manuel et Miguel ont commencé leur ascension. Et c'est pas une petite colline parce qu'ils sont retrouvés à 300 mètres d'altitude. Ça fait super haut, c'est la hauteur de la tour Eiffel, hein, pour point de comparaison. Et la police n'a aucune idée de ce qui a pu se passer ensuite. C'est là que les théories les plus folles entrent en scène, et je vais vous les présenter. D'abord, on a celle de la police, qui change d'avis, et qui pense maintenant que les deux hommes ont été tués. Selon eux, la mention « rendez-vous à l'endroit spécifique » démontre qu'une troisième personne leur a donné un point de rendez-vous. En effet, les enquêteurs ont également remarqué que les phrases étaient très mal écrites, mal formulées, donc ils pensent qu'on leur a sûrement dicté.
Ok.
L'inspecteur Bittencourt penche donc pour un meurtre avec comme mobile la volonté de récupérer une grosse somme d'argent, car la rumeur court qu'un de ces deux hommes se trimballait avec beaucoup d'argent sur lui, bien qu'on ne sache pas d'où cette rumeur sorte. En tout cas, les masques de plomb sur les yeux et les notes retrouvées seraient, pour la police, une tentative des tueurs de brouiller leurs pistes. La théorie du suicide est, quant à elle, écartée parce que les deux hommes ont été retrouvés avec du matériel de travail tout neuf qu'ils ont acheté pendant leur voyage, donc du matériel d'électricien, qu'ils seraient spécifiquement venus acheter à Campos pour leur travail. On pense que du coup, s'ils avaient voulu se suicider, ils n'auraient pas fait semblant de travailler et d'acheter du matériel.
Oui, c'est pas faux.
C'est pas faux, mais en même temps... Bon...
Oui, en même temps, tu peux aussi en profiter pour vivre tes derniers jours avec du super matériel high-tech d'électricien. Hein.
Du matériel semi-pro, bah oui, t'as quand même... Ouais, quand même. On connaît ça, nous, en tant que podcasteurs. Mais... je préférais mourir avec un chour, quoi, tu vois.
Exactement.
Ensuite, l'affaire prend un autre tournant quand elle a été rendue publique dans les journaux. Et c'est là que les gens ont commencé à s'intéresser à celle-ci et à fabuler des théories les plus farfelues.
Bah, tu m'étonnes en même temps. Non, mais une enquête comme ça, ça donne trop envie de théoriser. Hein.
Et du coup, est-ce que tu arrives à imaginer ce que je vais te dire ? Si tu la, après, tu la connais peut-être un petit peu, mais...
Déjà, là, j'étais en train de regarder sur Internet juste pour voir à quoi...
Ah, mais tu triches !
Non, j'ai rien lu. J'ai juste regardé à quoi ressemblaient les lunettes.
Ah.
Ça fait vraiment lunettes de soleil, mais ouais. En plomb, quoi. Donc,
ouais, c'est
en
ça.
Gros, des lunettes qui servent à rien. Donc, en gros, ils ont pris un cachet et ils ont porté ces lunettes.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est... je vais vous mettre les photos sur mon site et tout. Mais en gros, les lunettes, c'est des espèces de découpes qui ont une forme de lunettes, mais c'est plat et ils ont posé ça sur leurs yeux. Donc, c'est pas vraiment des vraies lunettes, mais... Et ouais, c'est en plomb. Voilà. Et ils ont soi-disant ingéré des capsules parce qu'elles ont été retrouvées... Enfin, on a retrouvé les restes des capsules à côté de leur corps.
Mais on dirait que ça fait des lunettes pour se protéger les yeux de quelque chose. Mm. Et moi, je dirais, je sais pas, est-ce qu'ils étaient dans une secte qu'ils attendaient, je sais pas... genre, ils ont pris une pilule pour... je sais pas, voir Dieu ou quelque chose comme ça et qu'ils devaient s'en protéger les yeux. Tu vois, je vois un truc comme ça, moi.
Après, si tu veux voir Dieu...
être en présence de Dieu, voilà.
Ah oui, tu veux ressentir.
Exactement.
Voilà, ok.
Moi, ce serait ça ma théorie, tu vois.
Eh ben, on note et on avance. Je vais te dire. Donc, la théorie la plus farfelue, c'est celle qui accuse les aliens.
Ah, j'avais pas pensé, c'est vrai.
Ah.
Il y a la CIA et les aliens aussi. Oui.
Oui, c'est ça. Un ami des deux victimes, Elcio Gomez, rentre en scène et va témoigner que ceux-ci, donc les victimes, avaient rejoint un groupe de spiritualistes scientifiques et que celui-ci menait des expériences afin de rentrer en contact avec les esprits des extraterrestres par le biais de substances et de drogues psychédéliques.
Donc en gros, c'est ma théorie, sauf que tu remplaces Dieu par les extraterrestres. Quoi.
Les esprits des extraterrestres, attention, c'est...
Oui,
c'est
effectivement.
Pas... C'est pas les petits bonhommes verts eux-mêmes, enfin je sais pas ce que c'est leur délire, mais bref. Et comme par hasard, une dame du nom de Gracinda Barbosa Coutinho do Souza...
Tu fais de moins en moins d'efforts. Hein.
T'es sûr? T'es brésilien? Non. Non. Espèce de nantais, va. Donc... Gracinda, elle contacte la police car elle dit avoir été témoin de quelque chose d'étrange dans le ciel le soir de la mort des deux hommes. Elle raconte qu'elle était en train de conduire près de la colline avec ses trois enfants et qu'ils ont vu entre 19h10 et 19h20, je cite, « un objet volant ovoïde orange entouré d'un anneau de feu qui émettait des rayons bleus dans différentes directions. »
Ah, ça c'était le concert de Doudou 4000. Non mais en vrai ça, c'est exactement la... Enfin, on n'a pas de notion de date, donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont morts, donc on a encore moins la notion des heures et tout.
Bah à 17h ils ont été déposés, je te rappelle, par la Jeep au pied de la colline.
Ah oui, donc, c'est vrai qu'on a vraiment une notion de date.
Le temps qu'ils montent 300 mètres,
oui, t'as raison.
Le temps qu'ils montent 300 mètres, apparemment ça leur prend 2 heures, Donc 2 heures pour monter 300 mètres, ça va.
Je sais pas, ouais, oui, a priori, ouais.
Quand ces révélations paraissent à leur tour dans la presse, un tas d'autres personnes se mettent à témoigner de la même vision. Ce qui expliquerait donc pour certains pourquoi les victimes portaient des masques de plomb sur leurs yeux. Ce serait pour se protéger des rayons radioactifs d'un vaisseau extraterrestre. Les pilules feraient donc aussi partie du rituel. Bon, après, j'ai noté que comme les corps étaient trop décomposés, ils n'ont jamais pu tester ce qu'il y avait dans leurs organes et dans leur estomac. Donc pour moi, on ne peut pas vraiment savoir s'ils les ont vraiment avalés. Tu vois,
oui.
Tout ce qu'on retrouve, c'est des emballages, des capsules à côté de leur corps. Mais du coup, ça pouvait être tout à fait une mise en scène, comme la police l'a dit. Et puis, bon, les masques, c'est pas difficile à poser sur les yeux de quelqu'un que tu viens de tuer, quoi. Tu vois, si jamais c'était un meurtre. Voilà.
Et j'imagine que les emballages, il n'y avait rien d'écrit dessus. Il n'y avait pas genre écrit Efferalgan 500 mg.
Non, il y avait. Malheureusement, non. Je t'ai dit, on n'a pas beaucoup d'infos. Oh. Hein. On n'a même pas les photos des capsules ou quoi.
Ok.
Donc, je ne suis même pas sûre qu'elles aient existé, même les capsules, parce qu'on a les photos des masques, mais c'est tout.
On a aussi les photos des gars et les photos de la note aussi.
Oui, voilà. Mais par exemple, bon, après, on a dû les retrouver, mais c'est bizarre de ne pas les prendre en photo, les capsules. Enfin, bon, écoute.
Bah, à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo numérique, hein. Chaque photo comptait. Hein.
En 1966, ouais, si, c'est vrai.
Bah oui.
Ouais. Ah, écoute, je sais pas, j'y étais pas. Hein. Faudrait que je demande à Dan.
Ouais, on lui demandera.
On demandera à Dan. 3 infos à rajouter par rapport à cette théorie des aliens. Cette colline serait très connue pour ses événements spirituels et paranormaux à cette époque. Et, petit détail creepy, on dit que l'herbe n'a plus jamais poussé à l'endroit où ont été retrouvés les corps.
Ah là, je demande à voir en 2023.
Let's go, hein. À part qu'aujourd'hui, à ce qui paraît, c'est très dangereux là-bas. Donc, parce ouais. qu'il y a, il y a toute une favela qui s'est installée autour. Donc, tu peux pas y aller, en fait, shop. D'accord ?
Ok.
Après, on pense que c'est à cause de la grande quantité de formaline, ou de formol, j'ai lu formaline, mais je sais pas si le terme est correct, que la police a répandu sur le lieu pour masquer l'odeur des corps. À voir si c'était commun de faire ça, parce que je vois pas trop l'intérêt dans une enquête. Enfin, c'est des cadavres en pleine nature, ça va pas l'abîmer. Mm. Tu vois, d'avoir des corps. Mais jeter des produits comme ça, si. Enfin, c'est une scène de crime. Pourquoi tu jetterais un truc sur la scène?
Ouais, non, c'est le dernier truc que tu fais sur la
scène. Avant
de
partir,
ouais.
Alors que c'est en haut d'une colline à 300 mètres où il n'y a personne qui va. Enfin, ça, l'odeur, elle va gêner qui? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est clair.
Donc voilà, ça serait pourquoi l'herbe n'a plus poussé depuis. La 3e info, c'est qu'on retrouve à leur domicile, à tous les deux, des livres ésotériques. Donc plein de trucs en lien avec le délire de communiquer avec les esprits, les aliens, etc. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. J'ai fait le tour de 5 sites différents pour regrouper toutes ces infos. Et j'ai fait mes théories, du coup. Bon, ma première théorie, elle est naze, mais c'est la plus simple. Est-ce que c'était pas un truc en lien avec leur travail ? Ils avaient un job à faire sur la colline, et ils devaient y avoir un truc électrique. En général, c'est là qu'on fout les lignes radio, électriques, etc. Donc du coup, peut-être fallait qu'ils montent jusque là-haut avec leur nouveau matériel qu'ils ont acheté exprès, etc. Et peut-être qu'ils avaient besoin de se cacher les yeux pendant l'installation. Enfin, je sais pas, que c'était peut-être une étape pour se protéger de je ne sais quoi. Et avaler un médoc anti-radiation. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Bah, je vois ce que tu veux dire, mais ça me paraît... Je suis pas sûr que ce soit des pratiques très courantes dans le milieu des électriciens.
Ouais, mais en 1966.
Bah, du coup, faut demander à leur employeur.
Bah oui, mais ça, on n'en sait rien.
Est-ce que la police l'a fait, ça ? Non ?
Ah, mais je n'ai aucune info. Je t'ai dit, là, c'est tout ce qu'on avait, là.
Ah, je pensais que quand tu faisais des recherches, bah du coup, t'interrogeais les personnes et tout. Tu fais pas ça ?
Bah là, j'ai pas pu. Pour des raisons financières, j'ai pas pu me rendre à Rio dans les temps, mais...
Ok.
Ouais.
Bon, tu nous feras dans le prochain épisode, tu nous en parleras du coup.
Ouais, j'irai faire un follow-up. Parce que, ouais, il n'y a pas de mention de ligne électrique ou de radio, ou radio dans la zone. Dans l'enquête non plus. Donc, au final, peut-être qu'il n'y a pas de trucs électriques à cet endroit-là et qu'ils n'avaient pas de raison d'aller là-haut. Qu'il y avait peut-être que des arbres. Et puis, j'avais noté que, ouais, ça aurait pu être demandé à leur employeur, mais il n'y a aucune notion de ça. J'ai aussi trouvé sur un site un passage qui décrivait un peu la vibe du lieu. Et des quartiers autour de la colline à cette époque, ça dit que c'était assez calme et maintenant, au contraire, c'est décrit comme, je cite, « effrayant avec des zones inhabitées et d'autres où surgissent des baraques, un labyrinthe de voies irrégulières, des montées, l'enroulement des passages qui se croisent et des pylônes à haute tension. » Donc tu vois, maintenant, il y a des pylônes. Ça se trouve, il y en avait aussi à l'époque.
Bah, peut-être, ouais.
Donc, ils avaient peut-être une raison de monter là-haut, je sais pas.
Ouais, mais c'était quand même à 260 km de là où ils habitaient, tu me disais.
Oui, mais ils devaient peut-être aller, je crois, à Rio pour acheter des machines spécifiques, tu vois.
Oui, mais j'imagine, mais leur employeur, il va pas leur dire bah, « Tant que vous êtes à Rio, j'ai un truc pour vous. »
Bah si. Tant que vous êtes à Rio, j'ai une colline avec un pylône à réparer, et du coup, ils sont montés. Et en même temps, ils se sont dit « Waouh !»
Ouais, mais j'imagine...
Enfin, je sais pas, le gars, il avait l'air stressé de monter là-haut.
Autant
donc,
prendre des électriciens du coin.
Écoute, c'est 1966, il doit y avoir 3 électriciens au Brésil. Enfin, tu vois.
Ouais, pas sûr, quand même, pas sûr.
Bref, moi, en tout cas, je me demande depuis quand sont installés ces pylônes à haute tension, parce que ça pourrait être une très bonne raison d'aller là-haut pour eux. Ma deuxième théorie, c'est leur pote, que je trouve très chelou. Elcio Gomez. Ma théorie, ce serait qu'il les a tués. Et comme par hasard, il dit à la police que ses deux potes faisaient partie d'un groupe ésotérique et que ceci explique cela, comme par hasard. Le mec, il arrive et il explique tout par l'ésotérique. Et puis, on pose plus de questions. Tu vois, ça se peut qu'il les a tués.
Mais il les a tués comment ? Vu qu'il n'y avait pas trop de traces, tu vois. Genre, il les aurait forcés peut-être à prendre la pilule ?
Bah, en vrai, tout est possible. Il aurait pu les tuer n'importe comment. On ne sait pas, vu qu'on n'a pas les... On n'a rien à l'autopsie à cause de la décomposition des corps. Aussi, on ne sait pas si c'est un vrai ami. Tu vois, il dit « Ouais, je suis un ami, je les connais, nana. » On ne sait pas si c'est un ami, on ne sait pas si c'est un collègue, on ne sait pas si c'est une connaissance. Tu vois ?
Ouais.
Donc, parce qu'à la base, les deux victimes, c'est des collègues. Donc, pour avoir un ami en commun qui ne travaille pas avec eux, c'est spécifique quand même, non ? Genre, « Ah ouais, je les connais tous les deux, mais ce n'est pas mes collègues. » Enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'était un ancien collègue, tu vois, donc peut-être qu'il y avait du bif entre eux.
Ouais. C'était médiatisé à l'époque ?
Oui, dès qu'ils ont commencé à sortir ça en public, oui. Ouais. Après, à la scène internationale, je ne sais pas.
Okay.
Mais elle est assez famous maintenant, donc j'imagine que voilà. J'ai demandé à ma copine brésilienne si elle la connaissait, elle m'a pas répondu. Donc voilà.
Ok, c'est bien la peine d'avoir une copine brésilienne.
Voilà, donc j'attends et puis je vous dirai.
Ok, très bien.
Donc du coup, moi je trouve que c'est assez bizarre le truc de c'était mes amis, nanana. Ouais, j'y crois pas trop. Donc peut-être que c'était leur collègue, imagine, et qu'il leur a fait un coup parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir beaucoup d'argent pour les machines, par exemple, tu vois. Ouais, on doit aller acheter les machines, elles coûtent cher et tout. On a je sais pas combien de reais dans la poche, nanana. Et du coup, il leur a donné rendez-vous tout en haut, en bas du pylône.
Ouais.
Et peut-être que Miguel a senti que c'était leur ancien collègue, qu'ils n'aimaient pas trop. Donc bon, peut-être qu'il a été muté là-bas à 260 km, tu vois, et que c'était lui qui était censé s'occuper du pylône. Bref, tu vois, j'ai inventé des histoires.
Ouais, tu vas super loin. Et je suis... Enfin, ouais, ça me paraît bizarre un petit peu. Moi, j'ai pas l'impression que c'est lié au travail, parce que ça aurait... Enfin, tu vois, l'enquête... l'aurait facilement trouvé, tu vois. Ils auraient vu avec leur employeur et tout. Et là, ils auraient pu dire oui, effectivement, ils étaient en haut de cette colline parce que leur employeur leur a demandé. Mais déjà, je vois pas pourquoi ils porteraient ces masques, quoi, ces sortes de lunettes cheloues.
Bah, après, le gars, vu qu'il savait, leur ami, là, il savait qu'ils avaient un délire spiritualiste, je sais pas quoi, là. Bah, il leur a dit « Prenez tout votre matériel et tout, je sais pas quoi, on va s'en servir en haut de la colline, comme c'est une colline réputée pour être un peu creepy, où il se passe des trucs ésotériques. » Il a dû leur dire « Bah écoutez, on va faire une pierre deux coups, on va réparer le pylône ensemble, et bah, vous allez amener vos masques et vos trucs, et puis on va tenter un truc. »
Oui, sauf qu'ils étaient que tous les deux dans le taxi, là, dans la voiture.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, peut-être qu'ils l'attendaient en haut du pylône.
Moi, je pense qu'ils ont fait ça tout seuls, comme des grands, tu vois.
Après, ouais, mais je sais pas, en fait, les notes aussi, tu vois, les notes qui disent, qui donnent des instructions à l'avance.
Oui, par contre, il y a sûrement une tierce personne. Ça, je suis d'accord, ouais.
Bah oui, ça, c'est sûr.
Bah, leur secte, hein.
Ou alors, c'est les instructions, ouais, de la secte qui leur ont donné, et ils ont écrit ça. Genre, comme ils ont dit que c'était des notes un peu cryptiques, mal écrites, peut-être qu'ils ont été à un rendez-vous de secte, Et ils ont écrit les notes, genre, vite fait, tu vois, oui, avalé, 16h30, nanana, et hop, bah ouais. Dans leur carnet. Mais c'était dans leur carnet de travail. Parce que dans le carnet, en fait, au début, il y avait des références d'appareils qui leur servaient au travail. Et dans ce même carnet, il y avait les instructions. Donc bon, c'est bizarre si dans ton temps libre, tu vas faire un truc de sec, tu prends ton carnet de travail. Enfin bon, après, je sais pas.
Bref. Ils aimaient peut-être beaucoup leur travail. Hein.
Ouais. Bah écoute. Bon, moi, je suis pas convaincue par le truc des extraterrestres. Hein. La lumière bizarre au-dessus de la colline. Certains ont dit peut-être que c'était de la foudre. Peut-être qu'ils ont été frappés par la foudre. Mais bon, leur corps, il n'y avait aucune trace de brûlure ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, et ça explique pas comment ils ont mis les masques de plomb. Enfin, ils sont pas allongés là-haut pour attendre la foudre. Et ça explique pas non plus les notes, les capsules, etc. Et aussi, un truc que j'ai observé, que je trouvais bizarre sur les photos. En fait, je vous mettrai la photo où ils ont été retrouvés. Et on voit les corps par terre. Moi, j'ai trouvé ça bizarre qu'elle soit à cet endroit-là. C'est des photos de l'enlèvement des corps, en fait, quand les secours arrivent et que... Bah, enfin, les secours. Ils arrivent pour enlever les corps. Bah, je trouve ça très bizarre, l'endroit où qu'ils ont soi-disant choisi pour s'allonger et attendre les extraterrestres. Ils sont en plein buisson. On dirait qu'on les a plutôt balancés là, pour les cacher. Enfin, moi, je me serais pas allongée dans les ronces comme ça, là. Ça a l'air un petit peu... Tu vois ce que je veux dire ?
Disons qu'ils sont à moitié cachés, à moitié découverts, quoi. Donc en fait, c'est pas le bon move pour s'allonger, mais c'est pas non plus le bon move pour dissimuler un corps. Ouais. C'est ça qui est super bizarre. Ouais.
En plus, à droite, on dirait que c'est libéré. Enfin, tu pouvais t'allonger là. Pourquoi tu t'allonges en plein milieu dans les buissons ? Enfin,
ouais, clairement, ouais.
Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça bizarre aussi. Bah écoute, l'affaire, elle est bouclée, soi-disant, mais elle est toujours pas résolue. Et on se demande toujours aujourd'hui ce qui a bien pu se passer en haut de cette colline. Voilà, franchement, c'était une affaire courte parce que les seules infos qu'on a.
Il n'y a pas grand-chose.
Non, il n'y a pas grand-chose et il y a tellement... Enfin, c'est chiant à expliquer parce que, tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de te dire, oui, ça peut être leur travail, nanana, mais après, ça n'explique pas le fait que, soi-disant, Miguel, il était stressé. Pourquoi il serait stressé juste avant de monter le truc ? Est-ce qu'ils travaillaient ou est-ce qu'ils travaillaient pas ? Pourquoi ils sont venus jusqu'à... Pourquoi ils ont fait 260 km, soi-disant, pour le travail ? C'est pas expliqué. Enfin, tout un tas de trucs, c'est un peu dur à expliquer. Du coup, toi, ta théorie, c'est la secte, toujours ?
Bah, ouais, déjà, ça part mal, en fait, quand t'es dans un groupe sectaire. Ça part très mal. Donc, ouais. Donc, je pense, ouais, qu'ils sont sûrement liés. Puis, je pense que les indications viennent sûrement de là. La police, du coup, c'est quoi leur rapport final en mode ils en disent quoi, eux ?
Bah, eux, ils disent que c'est un meurtre parce que pour eux, les notes, c'était des indications d'une tierce personne. Enfin, c'était instructionné par. ils ont eu l'ordre de quelqu'un d'autre, en gros.
Ouais.
Les notes, c'était pas eux, tu vois, apparemment. Et la personne les aurait manipulées pour monter jusqu'en haut. Et là-haut, elle les aurait tués et elle aurait maquillé la scène de crime en leur mettant des masques, capsules, ce que tu veux, voilà quoi.
Ok, donc c'est un super maquillage quand même. Mais ouais.
Ouais. Ou peut-être que, sachant qu'ils étaient dans une secte ou je ne sais quoi, là, peut-être que ça les a manipulés. Enfin, ils étaient influençables au point d'avaler des capsules.
Oui, par contre, sûrement,
et tout.
Sûrement.
Et que, du coup, il y avait une somme à récupérer apparemment. J'ai lu sur plusieurs sites qu'il y avait une grosse somme aussi. Donc voilà, après je sais pas d'où elle sort parce qu'ils ont rien retrouvé forcément.
Bah, l'assurance qu'ils ont prise 2 jours avant, c'est toujours comme ça.
Non, là il n'y a pas d'assurance là. Mais ouais, je sais pas ce que c'est cette somme là dont ils parlaient. Et aussi, moi je trouve que tu sais que ce truc ésotérique là, ça aurait pu être aussi inventé par son pote. Hein. Parce que son pote il a bon dos, il arrive, ouais, mais ils ont des livres chez eux, il aurait pu très bien aller les mettre là-bas. Puis ça veut rien dire. Moi, j'ai le livre des esprits sur ma table de chevet. Enfin, voilà, quoi. Si vous apprenez que je suis retrouvée dans une forêt avec des masques de plomb, là, vous avez... Enfin, c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous allez y croire ?
Je ne sais pas. Franchement, je me poserai la question 2-3 fois.
Bah, non, mais voilà. Les livres, pour moi, ça veut rien dire. Hein, c'est bon,
Oui, on a le droit de s'intéresser à des sujets sans forcément...
Voilà. Ouais. Et puis il aurait pu très bien inventer que ils ont été retrouvés parce que ouais, ça s'explique parce qu'ils étaient très ésotériques, ils voulaient communiquer avec les esprits des extraterrestres voilà, ça s'explique, je les connais bien, ouais, ils sont bizarres comme ça, hein, ces deux-là. Non, moi je suis désolée, c'est bizarre. Parce qu'en plus, ils sont collègues. C'est pas pareil. Je sais pas comment dire, les collègues, ça rajoute un truc de... T'es amis, mais c'est pas pareil.
Ouais, mais je pense qu'ils sont un peu plus que collègues. Hein, pour... Non, en vrai, je sais pas.
Oui, parce
que
mais s'ils pourquoi est, l'autre, s'ils
étaient
il est stressé
deux, s'ils étaient tous les deux dans la même secte, ils sont plus que collègues, tu vois.
Oui, peut-être.
Pote, secte. Après...
Peut-être qu'il y en avait que un et qu'il devait faire un sacrifice. Donc il a emmené l'autre et il était stressé. C'est pour ça qu'il était stressé, il regardait sa montre, etc., etc. Puis en plus, regarder sa montre, ça veut dire qu'il y a une notion de temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire, 17h, 19h, qu'est-ce qu'ils attendaient, pourquoi fallait être... Il y avait une rencontre, du coup, sûrement.
Non, mais il y a sûrement un truc, il y a sûrement un truc qu'ils ont compris et pas nous, et ça se trouve, ils rigolent maintenant, tu sais, genre, ils ont accédé à la vie éternelle et tout.
C'était quoi les instructions déjà? C'était 16h30, soyez à l'endroit spécifique. Bah déjà, ils sont en retard, non? Parce
ils étaient à la bourre déjà, ouais. C'est peut-être pour ça qu'il était stressé.
Ah bah oui, c'est ça. Donc déjà, 16h30, ils n'étaient pas là. 18h30, ingérer les capsules. Et au final, soi-disant, il y a eu le truc dans le ciel vers une heure plus tard. Mais ça leur laisse quand même, regarde, 16h30, soyez à l'endroit spécifique. 18h30, il y a 2 heures. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire sur une colline pendant 2 heures?
Bah déjà, il faut accéder au spot.
Ouais.
Mais oui, je sais pas, hein, ça se trouve, tu sais, c'est 300 mètres, mais imagine, c'est... y a des... Ouais non, 300 mètres, c'est pas loin quand même.
Bah après, 16h30, soyez à l'endroit spécifique, ça veut dire soyez en haut, ouais. Déjà. Donc normalement, ils auraient dû monter bien avant. Et une fois qu'ils sont en haut, ils sont censés attendre 2 heures avant d'ingérer les capsules et d'ensuite attendre le signal avec les masques. C'est-à-dire que pendant 2 heures, ils sont censés être tout seuls. Ou alors, l'endroit spécifique, c'est pas en haut de la colline, c'est peut-être en bas, j'en sais rien.
Oui, parce
peut-être
qu'au final,
y avait
on sait
un rendez-vous avant. Ouais.
Oui, ça ouais. Se trouve, c'était avant, ils l'avaient déjà fait, cette étape. Et puis le pire, c'est qu'on n'en saura pas plus. Hein.
Bah oui. À part si ma pote brésilienne répond.
Oui, elle a sûrement des infos.
Que, oui, sûrement.
Venue
oui.
En direct du Brésil.
Donc, ouais. Bah écoute, moi, ma théorie préférée, je dirais que. Moi, je pense que y a la troisième personne, elle a fait elle était impliquée, il y a une troisième personne, et je suis sûre que c'est son pote, là.
Ouais, j'ai compris que tu l'aimais pas trop, cette personne.
Non, je l'aime pas. Non. Je le sens pas.
Ok.
Bon.
C'est bon pour toi?
Un dernier mot? Oui.
Non, franchement, okay. Je l'avais effectivement déjà entendu, et puis, bah, elle est toujours aussi, aussi bizarre, quoi. Et on n'a toujours pas de réponse.
Ça serait bien un film. Avec toi qui joue Miguel et Indigo qui joue.
je suis pas sûr du résultat.
Moi je fais la meuf, la serveuse.
Ok, bon bah écoutez, ce sera pour la saison prochaine, saison 3.
Ouais.
On se mettra à faire des courts-métrages et tout.
Ouais, allez.
Ça va être stylé.
Voilà, c'était les deux histoires qu'on avait en stock pour vous. L'histoire des masques de plomb au Brésil et l'histoire de Kamar Daban en Russie. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et merci à tout le monde qui m'a soutenu sur Patreon cet été, qui a écouté tous les épisodes exclusifs. Il y en a beaucoup là maintenant.
Il y en a combien?
Il y en a 11.
Waouh. Waouh.
T'as pas mis le combien?
Tu veux que je mette le combien?
Oui, vas-y, s'il te plaît.
Combien?
11. Merci à tous et merci à ceux qui ont suivi aussi le reste de l'activité des Antipodes du label, n'est-ce pas Yop? C'était très actif de ton côté, non?
Ben nous, on s'arrête jamais, jamais. Du coup, on a continué avant d'aller dormir, on a continué le rendez-vous de l'étrange et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse une pause, mais non, c'est cool. En fait, on a passé un bon été parce que tu vois, tous les podcasts s'arrêtent, il ne reste plus que toi. Donc, les gens t'écoutent, donc c'est cool.
Bravo, bravo pour ce rythme effréné. Bon bah merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de C'est Creepy, de la rentrée de C'est Creepy.
Ouais, enfin rendez-vous de l'étrange plutôt. Hein.
Bah non, c'est toi qui as craché dans mon podcast.
Ouais, bref, ça va être un double épisode je pense, hein, j'ai l'impression. Hein.
Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Vanille, j'ai un podcast qui s'appelle C'est Creepy, dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystères en tout genre, comme ce soir. Voilà, donc vous pouvez me retrouver dans mon podcast. Et toi, du coup?
Stylé. Et bah, moi, c'est Yop et j'officie dans le Rendez-vous de l'étrange, qui est un podcast que j'enregistre tous les mois en live. Bah, sauf finalement cet épisode qui sera pas en live, mais généralement, c'est enregistré sur Twitch. twitch.tv/jouissuyop. Et bah, c'est un podcast qui parle de mystères. Bah, comme en fait, hein, ce soir, hein, c'est généralement des histoires dont finalement on n'a pas la réponse. Donc à la fin d'un épisode, on se pose généralement plus de questions qu'au début.
Des affaires qui rendent dingue.
Exactement. Mm. Puis aussi dans le podcast Avant d'aller dormir, où là je raconte des histoires qui font peur avec mon camarade Indigo. Et voilà.
Et plein d'autres gens.
Et plein d'autres gens, bah oui, il y a souvent des feats. Et d'ailleurs, tu étais dans un des derniers épisodes et tu vas bientôt revenir.
Oui.
Ça va être stylé.
Ça va être plus 18.
Je sais pas, je me rappelle plus.
Non mais, non, mais... Oh, genre, tu sais plus ce que j'avais à dire dans le dernier épisode.
Non, en vrai, je sais plus, on en enregistre tellement d'histoires.
Bon bah écoute, j'aurai la surprise pour toi là.
Ok.
Épisode avec la femme enceinte là.
Je me rappelle plus, je me rappelle effectivement, t'as joué une femme enceinte, mais après je sais plus.
Ouais, bon écoute, on va pas épiloguer. Voilà, et sur ce, on vous dit à bientôt dans nos podcasts. Pour de nouvelles histoires, bien, t'es prêt, Yop?
Ah, je suis prêt.
Bien, creepy.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.